savons, le speck, qui n'est pas.
Donc, le speck, c'est bien sûr un produit typique del Trentino, un peu à mi-chemin entre la charcuterie très douce d'Émilie-Romagne et la charcuterie beaucoup plus intense et fumée qu'on trouve en Haut-Adige et en Autriche.
Oggi vi proponiamo canederli allo speck, sformatino di casolet, strangola preti alle erbette di montagna, casonsei di segale, gnocchi di polenta con burro di malga, tortelli di patate e mortandella della Val di Non, torta di mele, strudel. Buon appetito!
Andiamo tutti ad assaggiare la cucina delle Dolomiti su Franche-Inter.
Buongiorno a tutti, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Quand on pense cucina italiana, on pense évidemment mozza, pizza, pasta, mais c'est oublié que l'Italie a aussi sa botte secrète. Que diriez-vous d'une cuisine de montagne, rustique, simple, roborative, qui fleure bon la charcuterie, la pomme de terre, la polenta, le fromage fondu, le strudel? Je vous propose un voyage culinaire au cœur des Dolomites, cet exceptionnel territoire de montagne au nord-est de l'Italie, fortement marqué, on va le voir, par l'Autriche, pour des raisons géographiques et historiques. On va voir que ça se ressent même jusque dans l'assiette. J'ai eu la chance de voyager dans cette magnifique région, et plus particulièrement dans le Trentino Alto Adige, le Trentin Haut Adige, avec notre experte de la cuisine italienne dans la bande dont on va déguster, c'est Alessandra Pierini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Vous allez bien, Alessandra?
Benissimo.
Comme d'habitude, quand vous venez à ce micro, eh bien, ce sont les bras chargés de tous ces trésors. Et là, ce sont les trésors évidemment des Dolomites. Un petit inventaire très rapide.
Oui, strudel, trentingrana, du miel, du vezzena, de la varone, de la carne salada, de la mortandella, des canederli, du speck, des pommes de terre,
et elle a cuisiné, Alessandra. Imaginez à quoi ressemble le plateau 621 de la Maison de la Radio. C'est absolument incroyable. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, notre chroniqueur vin Dominique Hutin et notre avocat gourmet Éric Morin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Dominique.
Oui.
Alors,
ben moi je suis venu les mains vides du coup, Alessandra a tout apporté.
Pas tout à fait en fait.
Non.
Il y a des trésors en bouteille.
Voilà, je fais un petit son. Voilà. On va voler de pic en cime, de mont en col. Bref, on va ausculter la viticulture héroïque des Dolomites.
Avec vous tout à l'heure, Dominique et Éric, comment protéger l'origine d'un produit en droit ?
Eh bien, on va parler des appellations d'origine, des appellations d'origine contrôlées, protégées. Et mon origine, tu l'aimes, mon origine ?
Ça concerne l'Italie, la France et toute l'Europe. On voit ça avec vous tout à l'heure, Éric. Pour partager vos souvenirs de voyage dans les Dolomites ou pour poser vos questions, deux options. Un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou le bouton intervenir sur l'appli mobile de France Inter. Derrière la console pour mitonner l'émission en direct, Laurent Thomas, Julien Dumont, Nadia Chougui, benvenuti nelle Dolomiti.
France Inter, on va déguster. Avec François-Régis Gaudry.
Il mio nome è Andrea Paternoster.
Je m'appelle Andrea Paternoster.
Sono apicoltore da tre generazioni. Vivo in Trentino, nelle Dolomiti.
Je suis apiculteur depuis trois générations, j'habite dans le Trentino.
E da sempre produciamo il miele.
Ce qui me plaît le plus au monde, c'est de raconter mon territoire à travers
questo miele speciale che è il miele di abete.
Un miel très particulier ici, qui est le miel de sapin.
Miele che ha un'intensità aromatica importante, ha una grande identità.
Donc une fois qu'on met la cuillère sur la langue et qu'on la tourne dans la bouche, évidemment il y a des notes qui apparaissent. Alors c'est pas si doux que ça. En fait il y a des tonalités sombres de sous-bois. On a même un goût qui nous vient de caramel ou de bonbon de l'ancien temps, un bonbon à l'orge.
Come un ricordo,
pour finir, un arrière-goût de verdeur, de sous-bois, quelque chose qui surgit comme ça.
Nous avons eu la chance de rencontrer ce que l'on pourrait appeler le druide italien du miel, d'ailleurs un apiculteur de réputation internationale. Notre entretien a été traduit par Stéphane Solier, c'est Andrea Paternoster.
Absolument, c'est l'apiculteur d'excellence en Italie qui est basé dans le Trentino Alto Adige, donc que nous sommes allés voir, visiter. C'est un ami maintenant et c'est vraiment, Andrea, il dit qu'il a les abeilles dans ses gènes.
C'est ça.
Parce que c'est vraiment une famille d'apiculteurs, déjà d'agriculteurs, mais lui, il a fait vraiment de l'apiculture, vraiment son métier. Et c'est son travail, mais aussi sa grande passion.
Il est installé à Vigoditone, dans le Val di Non.
Absolument.
Et pas très loin d'un château qui lui a donné le nom de son entreprise, en fait.
Ah oui, qui c'est le château de Thun. D'ailleurs, son entreprise s'appelle Mieli, au pluriel, bien, Mieli Thun.
Alors, il produit des miels de toutes sortes dans toute l'Italie, car il fait transhumer ses ruches dans le pays. Mais s'il y a vraiment un miel typique des Dolomites, on en a donné une petite cuillère à nos amis Eric et Dominique, et ben c'est ce Miele di Abete, un miel de sapin, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ?
Mais au prétexte que c'est nourri par le sapin, on peut penser peut-être à ces bonbons qu'on connaît bien pour la gorge. Il n'en est rien. Rien du tout. C'est éminemment plus intégré. La saveur est vraiment intégrée à l'ensemble. Oui. Par contre, c'est très sphérique. En bouche, ça prend de la place, ça tapisse. C'est très suave.
Ouais, c'est très délicat. Hein. C'est pas du tout ce qu'on imagine quand on mange un miel de sapin. On a l'impression d'être dans une forêt de sapin, mais un petit peu humide, juste après la pluie.
Ah, bien
absolument.
Dit. Sous-bois.
C'est tout à fait le sous-bois.
On
les feuilles,
le
feuillage, comme ça, l'écorce, même un léger goût fumé qui reste un petit peu, mais beaucoup de persistance.
Pourquoi a-t-on choisi ce miel de sapin? Parce qu'il cristallise, en quelque sorte, il symbolise, il synthétise les paysages. Ceux des Dolomiti, cette fameuse région au nord où le sapin est évidemment roi, c'est le roi des forêts, plus là-bas qu'ailleurs d'ailleurs, puisqu'il y a des forêts de sapin partout, il faut imaginer quand même un paysage très montagneux. On est encore une fois dans le nord-est de la Botte.
Nord-est de la Botte, c'est ça, un paysage surtout très végétal, de conifères, de pins, de pins sylvestres, beaucoup de fleurs, d'herbes sauvages. Et les Dolomites, c'est ce massif des Préalpes orientales, qui est situé en fait sur trois régions en Italie, qui sont le Trentino Alto Adige, le Friuli Venezia Giulia et les Vénéties.
Donc le Trentin au Adige, la Vénétie et le Frioul, à cheval sur trois provinces.
Trois provinces, absolument. Et c'est surtout étendu, les Dolomites sont surtout étendues dans le Trentin, qui est donc la région qu'on a visitée. Et c'est aussi cette région en Italie qui a la particularité d'avoir les Alpes au nord et des Alpes au sud.
C'est ça.
Donc c'est vraiment, vraiment la montagne.
Et quand on dans l'oreille, on peut entendre ce genre de chant, pardon, très célèbre. Et on distingue le côté yodel du Tyrol, hein, on est proche de l'Autriche.
Absolument, c'est ça. Et c'est en fait le Tyrol, c'est la partie nord, celle qu'on appelle en Italie le Sud-Tyrol, qui est le sud du Tyrol autrichien, qu'on appelle aussi Alto Adige, donc Haut Adige. Parce que c'est là que l'Adige, le fleuve qui traverse la région, qui prend sa source entre la Suisse et l'Autriche, traverse cette région, coule même dans les Vénéties, à côté de Vérone et de Rovigue, se jette dans l'Adriatique.
Et c'est ça, et ça a creusé ce fleuve Adige, a creusé une magnifique vallée alpine. Ce chant, il est très connu hein, pour les habitants des Dolomites.
Ah oui, ce sont les Alpini, c'est le chant des Alpins, c'est la Montanara.
On aime beaucoup. Hein.
La chanson des montagnes, alors assez berceuse.
On peut chanter, évidemment, dans le Trentino Alto Adige. On peut skier, il y a quelques stations de ski très connues, comme un peu plus au nord, Cortina d'Ampezzo. On peut y faire de la randonnée ou de la via ferrata. Et on peut aussi pratiquer, évidemment, un autre sport, la gastronomie. L'Autriche est au-dessus, on l'a dit. Et on va voir dans un instant comment l'Autriche a finalement vraiment déteint toute la culture autrichienne et germanique a déteint sur la cuisine des Dolomites.
Tout à fait, parce que vraiment, la partie nord de le Trentin au Adige faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces influences germaniques qui ont déteint, l'Hongrie toujours à côté. Et c'était en fait, cette partie nord de la région appartenait à l'Autriche. Et c'est que italienne, et de cette façon comme nous la connaissons aujourd'hui, depuis la Première Guerre mondiale, donc c'est très récent.
On l'aura compris, on n'est pas dans une Italie du basilic, du soleil, où on parle avec les mains. On est dans une Italie, aussi surprenant que cela puisse paraître, dans une Italie un peu germanique.
Oui, surtout dans les connotations, dans les noms,
dans les accents,
aussi les accents,
dans les toponymes.
Oui, aussi. On parle de Val di Non, on a parlé des miel Thun, de Vigo di Thon. Donc, c'est vrai que ça fait quand même assez une résonance germanique.
Et il y a des chalets, on se croirait dans le Tyrol, etc. Bon, assez présenté ces paysages. On va maintenant le déguster dans un instant. Et avant de poursuivre notre voyage dans les fétous des Dolomites, je vous propose une pause à New York avec Notes, le dernier tic de Big Teeth, un quatuor américain de Brooklyn choisi par Djoubaka. Bon appétit sur France Inter.
It's not the energy reeling, nor the lines in your face, nor the clouds on the sea. La cucina delle Dolomiti su France Inter.
Siamo arrivati nella mia fattoria, nella mia Chotal Cross.
Alors ici nous sommes dans les tables avec les vaches de Marisa.
Combien vous en avez?
In tutto sono 80, però divise in diversi momenti.
Il y a environ 80 vaches. Les vaches vraiment qui produisent le lait sont environ 50.
Noi più che altro alleviamo la pezzata rossa.
Ici donc la race de vache s'appelle la pezzata rossa. Et ici devant nous, nous avons Nicoletta, la vache la plus âgée qui a bien 14 ans.
Et là, vous êtes en train de leur donner du foin, mais alors un foin d'une couleur extraordinaire, un foin vert.
Certo, la qualità del latte e del formaggio nasce proprio qui nella stalla.
Alors vraiment le bon goût du fromage, il est ici dans le foin, dans ce qu'elles mangent les vaches. Il est dans les tables, il est dans la façon dont le paysan soigne ses vaches. Les vaches, on peut les voir, elles sont magnifiques, elles sont très bien entretenues. On dirait presque qu'elles sortent chez le coiffeur. Toutes propres, bien rangées, d'une couleur magnifique. On voit qu'elles sont vraiment heureuses.
Les vaches sont heureuses, on l'a vérifié dans la grande ferme de Marisa Corradi. Imaginez un grand chalet avec une vue superbe sur la commune de Lavarone et sur les monts environnants. Marisa est productrice de lait et de fromage et elle est Alessandra Pierini à la tête d'un atelier, d'un caseificio, où l'on produit un exceptionnel fromage de montagne.
C'est ça, c'est Marisa Corradi donc qui est à la tête du caseificio degli Altipiani di Lavarone. Elle produit le Vezzena di Lavarone, qui est une sentinelle slow food. Donc c'est la seule productrice de la région qui détient donc ce presidio, cette appellation donc qui est une protection pour soit pour le fromage.
On rappelle que slow food, c'est évidemment cette association internationale qui milite pour la défense de la biodiversité.
De la biodiversité, des recettes, des traditions,
aussi, des traditions paysannes.
Absolument. C'est un fromage que nous avons sous les yeux.
Oh là là.
C'est un fromage donc au lait cru qui est produit uniquement en alpage, donc pendant le mois de juin et le mois de septembre, quand les vaches sont dans les pâturages.
Mmh.
Et elles ramassent le lait de 3 éleveurs différents. Et donc, ça donne un résultat d'un fromage assez exceptionnel et qui ressemble à l'œil comme ça, un peu à une grosse meule d'abondance. Avec des yeux de perdrix un petit peu dans la pâte.
Ce fromage a une particularité d'ailleurs, il a des yeux partout comme vous le dites.
Un Vezzena buono deve avere gli occhietti di pernice.
Alors, le Vezzena, sa caractéristique principale, c'est d'avoir des yeux de perdrix, des petits trous en fait.
Petit trou.
Sì, un occhietto piccolino.
Où sont situés les alpages?
La malga dalla quale ritiriamo il latte per fare il Vezzena di malga è il
Alors l'alpage pour fabriquer le Vezzena di Lavarone slow food, il est produit pas très loin de la fromagerie mais à 1500 mètres d'altitude toujours dans la commune de Lavarone. Les vaches sont traites dans les alpages et le lait est descendu à 1100 mètres à la fromagerie pour être travaillé et produire le fromage.
Il y a une tradition qui consiste à manger ce vezzena d'alpage avec du miel.
L'abbinamento vezzena di malga con il miele è ottimo.
L'accordo parfait pour manger ce vezzena affiné, c'est donc du miel d'alpage, parce qu'en fait, on retrouve les parfums de la malga aussi bien dans le miel que dans le fromage.
Tu goûtes ?
Je goûte. Ils sont délicieux les deux, le miel et le fromage. C'est délicieux parce que le fromage est savoureux, assez relevé. Le miel l'adoucit tout en ayant son caractère. Donc c'est vraiment un mariage idéal.
C'è un detto trentino che dice la bocca non le straca se non la sa de vacca.
Il y a un proverbe dans le Trentin, mais je pense dans beaucoup de régions de montagne, que la bouche n'est pas fatiguée tant qu'elle ne sent pas la vache. Buonissimo.
Grazie. Et pourtant, il sent la vache un peu quand même, ce vezzena di
Lavarone. Pas, pas que la vache.
Et c'est plutôt bon signe. Ah, oui, oui, il sent les fleurs, les alpages.
Tout à fait. C'est un goût assez persistant. On vient de le déguster, donc ça remplit bien le palais.
Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons?
Non, à la bouche pleine comme ça.
Eric,
il y a une acidité quand même qui tend, qui laisse le fromage frais, alors qu'il est dense. Il est très savoureux, il est très long. Mais cette acidité-là, souvent, équilibre l'ensemble.
Une belle acidité lactique.
Voilà, c'est ça. Mais une bataille entre l'acidité et en fait le goût du lait qui est encore très très prononcé, je trouve. Et on sent que derrière, il y a un lait d'exception.
Fromage assez exceptionnel. Et là, on retrouve notre miel des Dolomites pour un mariage d'amour avec ce fromage
avec
à pâte dure.
Le miel de sapin et ce fromage, donc c'est ce tout de suite qu'on nous a fait déguster directement à la fromagerie. Donc ce sont deux produits de montagne qui se complètent très bien.
Et que vous avez rapporté, qui se trouve d'ailleurs évidemment aussi dans votre épicerie Rapp dans le 9e arrondissement de Paris. Alors on l'a compris, les traditions laitières, fromagères sont vraiment au cœur du patrimoine culinaire des Dolomites en raison évidemment des montagnes, de la présence des alpages qui sont un terrain de jeu formidable pour les vaches, vaches d'une, on l'a vu, d'une espèce particulière.
Espèce particulière. Il y a aussi une race de vaches qui est protégée par Slow Food. Et ici, Marisa, elle utilise le lait des vaches de race brune, de pezzata rossa et pezzata nera, donc avec des taches rouges et des taches noires.
Et c'est vraiment des vaches prodigieuses,
très, très
gentilles.
Belles.
Et on a vu que le bien-être animal était hautement respecté.
Au centre de ses intérêts, en
absolument.
Fait. C'est vraiment ce qu'elle souhaite avoir, que les vaches se sentent bien, elles les gardent jusqu'à 12, 13 ans même. Et ensuite, même s'il faut les amener à l'abattoir, elle a une petite larme aux yeux. Et quand elle nous le dit, elle est toute triste.
Cuisine de montagne, on l'a dit, tournée vers le fromage, mais également les céréales.
Les céréales, l'orge, le maïs, surtout énormément de polenta qu'on trouve partout.
Eric,
De l'orge.
Oui, plusieurs réactions déjà sur le site internet et notamment... de remerciements de parler de cette région méconnue, mais qui rappelle aussi la cuisine de ma grand-mère. C'est Rebecca qui nous en parle, notamment la polenta sous toutes ses formes.
Et ben voilà, on en trouve partout de la polenta.
Partout, il faut quand même dire que c'est une des seules régions en Italie où nous n'avons pas traditionnellement des pâtes. Les pâtes, elles sont vraiment
remplacées. Un peu de spatzole.
Un peu de spatzole, mais ça, c'est arrivé dernièrement, après la Deuxième Guerre mondiale. C'était surtout des gnocchi de pain aussi, de polenta, d'autres céréales.
C'est ça, et la polenta, on la trouve partout, on trouve même des gnocchis de céréales qu'on arrose comme ça, de cassolette, qui est un fromage fondu et autres. Beaucoup de poissons de lac.
Beaucoup de poissons de lac, absolument, des truites aussi, de l'omble chevalier.
La trota
salmonata, qu'on est allé donc visiter à un élevage qui est Trota Oro, ils nous ont montré donc tout le travail d'éleveurs, et aussi ils transforment eux-mêmes les filets de poissons en conserve, et aussi pour la dégustation. Huile, citron, tout simplement comme ça, comme si c'était du saumon.
Très bien. Des épices aussi. Alors là, c'est assez particulier parce que autant au sud, on peut trouver du fenouil sauvage, du finocchietto, etc. Mais peut-être bien l'une des seules ou la seule région d'Italie où on déguste notamment du cumin.
Bah oui, c'est l'influence germanique, un petit peu autrichienne. C'est surtout le cumin et aussi l'anis. Beaucoup de baies de Genièvre aussi, du laurier, du romarin, de la sauge.
Beaucoup
Il y a deux pommes aussi, la pomme de terre et la pomme normale. La pomme de terre, c'est vraiment le légume roboratif qui intervient dans bon nombre de recettes, on va le voir. Et la pomme, bah ça c'est la surprise de fin d'émission pour un strudel vraiment de compétition. Oui, car le strudel peut aussi revendiquer la nationalité italienne. Et il est là d'ailleurs, il parade sur le plateau dont on va déguster. Je crois qu'il va pas faire long feu. Hein. L'espérance de vie de ce strudel, moi je sais que je connais la recette, elle est délicieuse. Il va rapidement y passer, comme on dit. Bon, il y a un produit que les Français connaissent et qu'on connaît mondialement, que se partagent d'ailleurs l'Autriche et l'Italie, c'est une spécialité charcutière que vous nous avez apportée.
Et qui est le speck. Speck, d'ailleurs, avec ce nom, cette consonance vraiment germanique, qui, ça veut dire donc en allemand, donc gras.
Gras.
Et c'est cette spécialité qui est donc dans le Trentino, et c'est une des seules charcuteries en Italie qui bénéficie en fait d'une salaison mixte, plutôt du fumage, comme on fait surtout dans les pays nordiques, et aussi comme on fait dans en Méditerranée, plutôt un salage. On utilise du sel, mais très peu.
C'est ça.
Avec des herbes aromatiques de la région, des baies de genièvre. Et donc, ça lui confère un petit peu un goût légèrement fumé, mais ça garde beaucoup le moelleux. C'est ça qu'on disait un peu, ce mélange de charcuterie, un peu du centre de l'Italie et un peu du nord.
Anatomiquement, on est en haut de la cuisse. Hein.
En haut de la cuisse,
c'est une cuisse qui est désossée.
Et quand un vrai speck entier pèse environ 5 kilos.
Et c'est un fumage délicat, on est en Italie. Hein. On y va avec délicatesse toujours en Italie, c'est pour ça qu'on aime beaucoup ce pays sur le plan de la cuisine. On met pas la tête dans la cheminée.
Non, du tout. Ce sont plutôt les épices qui l'emportent. La texture est fine, elle est assez fondante, mais effectivement, on n'a pas ce fumet un peu vulgaire qui vient chapeauter, masquer un peu l'expression de ce beau jambon.
Et le speck est aussi un ingrédient qu'on utilise dans la cuisine familiale et notamment dans une fameuse boulette que l'on va découvrir avec une cuisinière qui connaît vraiment tous les classiques des Dolomites sur le bout de la spatule. C'est Anarita Valentini. Elle est la chef de la Locanda delle Tre Chiavi, une auberge slow food située à Isera, pas loin du fleuve Adige d'ailleurs justement. Elle nous cuisine avec amour les canederli. Les canederli. En quoi consistent ces boulettes? Anarita nous explique tout.
È un piatto povero, quindi anche un piatto di recupero è il pane raffermo.
Alors les canederli c'est une recette en fait pour récupérer les restes que nous avons dans les frigos. C'est en fait des restes de pain, des restes de charcuterie et aussi des petits bouts de fromage qu'on a ensemble pour faire une délicieuse recette.
Il cadavere del frigo.
C'est pour faire revivre les cadavres du frigo.
Allora si prende il pane, le spaccatine.
Alors, on prend le pain, qui est une toute petite miche un peu rassie. On la découpe en petits carrés.
Et poi lo si bagna con il latte.
Et ensuite, on le laisse tremper dans le lait, dans un bol de bonnes heures. Là, on essaye de raccourcir un petit peu le temps pour pouvoir exécuter cette recette jusqu'au bout.
Poi prendiamo la mortadella.
On prend deux jolies tranches de mortadella, trois jolies tranches de speck. On les découpe en fines lanières et ensuite on les redécoupe en tout petits carrés.
Adesso sto pulendo la cipolla.
Alors on prend un oignon, on en découpe une grosse moitié et on le découpe très finement.
E questo serve per il soffritto.
Et c'est ce qui va nous servir pour préparer le soffritto qui va donner du goût à la charcuterie et à tous les ingrédients pour préparer la recette des canederli.
Adesso ho preso una padella.
Alors on prend une poêle, juste un filet d'huile d'olive, ensuite on rajoute l'oignon découpé et une fois qu'il a bien rissolé, on rajoute donc la mortadella et le speck qu'on avait découpé en tout petits morceaux, juste trois petites minutes.
Li versiamo.
Ensuite on rajoute dans le saladier, on a laissé tremper le pain avec le lait.
Mettiamo l'uovo dentro.
On prend un œuf, on le casse, on le rajoute,
on
sale légèrement parce qu'il y a bien sûr de la charcuterie, un tout petit peu de poivre,
un po' di prezzemolo,
du persil,
e poco di noce moscata,
de la noix de muscade,
un po' di pan grattato,
un po' et on rajoute une bonne poignée de chapelure de pain et une bonne poignée de Trentingrana, qui est le fromage de la région, un fromage au lait de vache typique de la région du Trentino. On mélange rigoureusement à la main tous les ingrédients.
In questo caso, se vediamo che l'impasto è morbido,
on essaye de voir si c'est nécessaire de mettre un tout petit peu de farine si la préparation elle est trop humide. C'est à nous de juger. Alors là, je me mouille les mains.
Iniziamo a fare le famose e mitiche
palline.
Pour former une boulette. La traditionnelle forme del canederlo è intorno ai
6 entre 6 et 10 cm de circonférence.
Les passe nella farina
on les passe dans la farine la et on est prêt pour les jeter dans le bouillon.
Ecco, preparato adesso.
Alors, je viens de préparer un bouillon de viande, mais on peut aussi utiliser, bien sûr, un bouillon de légumes ou aussi de volaille, aussi un reste de pot-au-feu, et ça sert pour cuire les canederli.
Le brodo sta bollendo e immergiamo i canederli.
Alors, je plonge les canederli un dans le bouillon bien bouillonnant.
Per circa 10 minuti.
On va laisser cuire les canederli environ une dizaine de minutes et ils seront prêts dès qu'ils sont remontés à la surface et on les enlèvera à l'écumoire.
Un po' di brodo.
Et on les dépose dans une assiette creuse avec deux bonnes louches de bouillon. On a mis environ deux par personne. On peut les servir tel que ou alors rajouter un petit peu de fromage râpé ou bien du poivre.
Et voilà. Bon appétit.
Ah, les canederli. Et ils sont comme par magie sur le plateau dont on va déguster. Alessandra, vous les avez cuisinés?
Bah oui, tout à l'heure, avant de venir ce matin.
Je regardais vos stories sur Instagram, effectivement.
Ah non, c'est très important. Déjà, ça sent très bon. Et puis, c'est très joli à voir. C'est ce gnocco di pane. Et c'est un gros gnocchi, une grosse boule de pain. C'est le canederlo, c'est le knödel.
Ah oui, il y a donc une proximité.
Grande proximité. Donc, avec cette cuisine plutôt autrichienne, allemande, qu'on peut retrouver aussi beaucoup en Alsace. Hein, absolument.
Oui, d'ailleurs, on a quelques réactions. Eric qui nous dit que nos spécialités alsaciennes, autres que choucroute ou flamencuche, ressemble beaucoup à celle des Dolomites.
Et ben voilà, c'est le trait d'union germanique.
C'est le trait d'union, absolument. Et donc, c'est les canederli. D'ailleurs, on peut les faire aussi dans le bouillon, comme nous les avons goûtés, mais aussi achoutés, c'est-à-dire secs, en dehors du bouillon, les assaisonner avec du beurre de la sauge, et ça peut accompagner les kraut, qui est un peu la choucroute locale.
Donc on peut reprendre ces canederli, une fois qu'ils ont cuit dans l'eau bouillante comme des gnocchi, on peut les mêler avec du burro e salvia.
Burro e salvia, beurre fondu avec de la sauge, comme nous avons ici sur le plateau.
C'est riche. Simplement. C'est vraiment la cuisine de montagne, c'est reconstituant.
Sauf qu'il existe aussi une version végétarienne, puisque là on a le speck et on a le goût fumé. Mais on peut le faire aussi avec des épinards, etc.
C'est ça, comme ça, c'est une grosse boulette verte sans viande.
Cette recette, comme toutes les autres recettes, et notamment la fameuse recette d'Anarita Valentini, cuisinière des Dolomites, eh bien toutes ces recettes sont à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Désolé, on arrête tout, j'ai rendez-vous avec mon avocat.
Sur France Inter, On va déguster.
Du speck, du Oadi jusqu'au vinaigre balsamique de Modène, l'origine de nos produits en Italie, en France, en Europe est une question pas toujours très simple à définir en droit. On y voit plus clair avec notre avocat gourmet Éric Morin.
Oui, vous connaissez tous les appellations d'origine. Cette protection donnée à des produits alimentaires censés refléter la quintessence, labellisée et dûment certifiée. Je dois vous avouer que plus ça va, moins ça va. En clair, j'ai de plus en plus de mal avec ce système. Alors qu'on ne s'y trompe pas, c'était une belle idée les appellations d'origine. Au départ, je veux dire. C'est après que ça s'est gâté. Quand on les a multipliées, quand on leur a fait des cahiers des charges épais comme un bottin, quand on y a mis des mesures, des contraintes, des contrôles, tout un tas de trucs qui éloignent l'artisan de son savoir-faire pour le transformer en remplisseur de formulaires en tout genre.
Y a-t-il des différences entre l'Europe, la France, l'Italie ?
Eh bien, en Europe, on les appelle des AOP. P comme protégé. En France, on les appelle encore des AOC. En Italie, des DOC, avec un grand C comme contrôlé. C'est l'Europe qui protège quand la France ou l'Italie sont les rois des contrôles. Et comme ces rois ont horreur du vide, ils cherchent par tous les moyens à étendre leur petit pouvoir. Tenez par exemple, dans une décision toute chaude du 4 décembre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne, la plus haute instance judiciaire de l'Europe, excusez du peu, a heureusement refusé que la protection de la dénomination, alors je vais le dire en italien malgré les accents extraordinaires autour de cette table,
plaisir.
Aceto balsamico di Modena,
Aceto, on y est presque,
Aceto, on y est presque. Que cette dénomination s'étende à l'utilisation simple des mots aceto et balsamico. Les gardiens du temple du vinaigre balsamique de Modène, et d'ailleurs pas le meilleur, puisque le meilleur est le traditionnel, voulaient tout bonnement interdire les simples mots vinaigre balsamique dans toute l'Europe et autrement que pour eux. C'est devenu ça aussi les appellations d'origine. Des mots qu'on veut confisquer, et comme par hasard toujours des mots valorisants ou supposés tels. Savez-vous par exemple qu'il est interdit pour des vignerons produisant leur vin sous la dénomination « vin de France » et non pas en appellation, d'apposer sur leur étiquette les mots de « château », même s'ils vivent dedans, celui de « clos », même si c'est leur adresse, ni le nom du cépage et même, il y a encore peu, le millésime. Pauvre consommateur qu'on perd délibérément plutôt que de le renseigner. C'est la grande dérive des appellations que d'avoir créé ces monopoles jusqu'à l'absurde et jusqu'à surtout oublier que dans l'acronyme AOC, la lettre la plus importante est le O, comme origine. C'est ce qui compte avant tout, que le produit vienne bien de là et de nulle part ailleurs.
Revenons justement dans la région qui nous intéresse aujourd'hui avec les Dolomites et le cas d'une charcuterie qu'on évoquait à l'instant, le SPEC.
Et le SPEC, le fameux Alto Adige. Alors certes, ça n'est pas une AOP, mais une IGP, une indication géographique protégée, une sorte de dénomination régionale garantissant une viande locale. Son credo est un poème. Un peu de sel, un peu de fumée et beaucoup d'air frais de la montagne. Si ça, c'est pas le plus beau et court cahier des charges du monde. En revanche, l'assaisonnement qui donne au SPEC son arôme si particulier est le secret de chaque artisan. Coriandre, cumin, origan, à chacun sa touche. Bref, sa liberté, non enchâssée dans des obligations trop strictes. Alors oui, que celui qui importe du miel du continent pour le vendre comme du miel AOP de Corse soit jeté aux abeilles insulaires, que celui qui fait venir nuitamment des raisins d'une autre région, voisine ou lointaine, en période de sécheresse ou de mildiou, pour compenser ses pertes et faire croire qu'il n'en a eu que peu, soit attaché à son chai tout l'hiver. Je vous parle là de vrais cas, pas d'hypothèses d'école. La vraie seule fraude, celle qui devrait mobiliser les limiers bien élimés de l'INAO et autres DGCCRF, c'est la fraude sur l'origine, pas sur la hauteur de l'herbe ou les mentions non trompeuses. Si le produit vient bien de là où il l'annonce sur l'étiquette, le consommateur saura où il se trouve et ensuite, eh ben, il fera son tri entre ceux qui ont bien ou moins bien travaillé parce que la terre ne fait pas tout. Alors retournons une dernière fois en Italie, pas loin des Dolomites d'ailleurs, à Alba, avec sa truffe blanche. Elle vient du Piémont, mais comme elle ne bénéficie pas d'une appellation d'origine, comme tous les champignons d'ailleurs, y compris les champignons de Paris qui viennent parfois de Chine, le résultat est qu'on trouve dans le village d'Alba presque plus de truffes venant de Toscane, voire de Croatie. Or, si c'est bien cette région qui lui confère, grâce à son humidité, son pH et la composition de sa terre, un bouquet unique, c'est bien qu'elle l'est unique. Alors pour pallier ce manque de protection et éviter les fraudes, certains commerçants ont créé un label privé avec des truffes numérotées et dotées d'un QR code qui permet de vous assurer de l'endroit précis où elles ont été cavées. Ah oui, mais parce que c'est bien l'origine qui importe pour le consommateur. Que ce soit pour ce produit de grand luxe, ou pour ses châtaignes d'Ardèche, pour son Sainte-Maure de Touraine, ou pour son huile de noix du Périgord. Et que ce soit des commerçants qui le fassent, est sans doute la preuve que les organismes publics ont failli, ici ou ailleurs.
Merci Éric Morin. Précisons quand même pour le SPEC, puisque Éric l'évoquait, que certes, le cahier des charges de l'indication géographique protégée est assez restreint, mais on peut trouver du SPEC de qualité, on en a la preuve sur le plateau.
Tout à fait, et ça c'est vraiment du SPEC Alto Adige, ils utilisent les cochons vraiment locaux. Et puis il faudra aller dans l'Alto Adige pour vérifier que l'air de montagne est vraiment si excellente.
Voilà, l'air de la montagne, vous avez bien suivi la chronique d'Éric Morin, Alessandra Pierini, merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour une recette géniale, on vous la promettait, c'est le Strudel, oui, un dessert de nationalité italienne, on va vous le prouver dans un instant avec une recette parfaite. On a faim sur France Inter.
Tu traverses le faubourg sans un mot, sans un bruit. Ce que tu retiens le jour te réveille en hurlant la nuit. La vie n'est pas si brève, c'est nous qui nous croyons immortels. Tu chantes le No Pussy Blues dans les chambres d'hôtel. Les gens tirent aux fenêtres pour passer. Découvre à découvert. accident. Et tu n'as aucune idée du prochain mouvement. Tu t'entends prendre une chambre sous un faux nom. Tu te vois mettre le feu aux ordres de mission. À découvert. Oh, 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 tu te découvres à découvert. Les panneaux de direction t'attendent.
Le flegmatique avec le titre à découvert. On n'est pas très loin de la folk champêtre de notre ami Jean-Louis Murat quand même. Par contre, on est assez loin des Dolomites, puisqu'on cuisine aujourd'hui le mythe des Dolomites avec Alessandra Pierini, experte en cuisine italienne. On va se pencher sur une recette très emblématique, mais une recette qui résonne un peu Mittelleuropa, on va dire, Europe centrale. C'est vrai que c'est un gâteau, une spécialité qu'on trouve davantage en Autriche, en République tchèque, en Allemagne, en Hongrie, en Suisse alémanique. Eh bien si, il existe également un strudel italien. On va voir en quoi il est particulier. On est allé, Alessandra, rendre visite à Giulia Segna, c'est ça ?
C'est ça.
La Locanda. Locanda.
Locanda alpina à Brèze.
C'est ça, c'est un vrai village de montagne avec une atmosphère chaleureuse.
Superbe.
Un feu de cheminée qui crépite.
C'est ça, et toute la famille qui travaille dans cette locanda, parce que Giulia, c'est la fille, mais la chef, c'est Silvana, Danilo qui travaille en salle, et Francesco qui est le fils qui aide en cuisine. Donc toute cette terre de famille se ressent beaucoup aussi dans l'hospitalité, dans la cuisine, et dans tout ce qu'on nous a présenté et fait déguster.
Locanda alpina à Brèze et la jeune Giulia pratique la recette de strudel avec l'accent italien, c'est strudel.
Strudel.
Strudel, c'est pas strudel ou strudel de sa grand-mère Anna. Ouais, la recette de sa grand-mère Anna.
La nonna.
On met la main à la pâte, vous êtes d'accord?
On y va.
C'est parti.
Iniziamo mettendo in una ciotola rompendo il nostro uovo.
Alors on démarre la recette en cassant un œuf donc entier dans un bol. On rajoute deux bonnes cuillères à soupe de sucre, une petite pincée de sel et on tourne avec le fouet pour mélanger.
Adesso possiamo aggiungere la buccia grattugiata del nostro limone.
On râpe donc le zeste de citron et le rajoute à la préparation.
Et un peu de grappa.
Et on ajoute un petit verre à liqueur de grappa pour aromatiser la pâte.
Et diamo una bella mescolata.
Et on mélange bien le tout.
Aggiungiamo
on
il
rajoute
nostro burro
quelques
morbido.
Morceaux de beurre ramollis à et température ambiante. Et on rajoute aussi un petit verre à liqueur de lait tiède.
Possiamo aggiungere la farina e iniziare ad impastare con le mani.
Et là, on rajoute la farine et on commence à bien mélanger le tout dans le saladier avec les mains.
Per circa 5-10 minuti.
Pour 5-10 minutes. Ensuite, on forme une boule et on la met dans un saladier recouvert d'un torchon et on la laisse encore un peu reposer 10 à 15 minutes.
Ora prendiamo le nostre mele, le sbucciamo.
Alors maintenant, c'est à coupe pomme. On commence d'abord à les peler. Ensuite, on la découpe en fines tranches.
Bon, tout le monde se met à éplucher des pommes, c'est ça? Même Alessandra?
Il en faut 10 pour chaque gâteau.
Adesso le condiamo insieme.
On les a déposés dans un grand saladier et on commence la préparation.
Aggiungiamo un po' di zucchero.
Donc on rajoute un tout petit peu de sucre et on soupre bien de cannelle.
Andiamo ad
on rajoute le jus du citron dont on a utilisé le zeste tout à l'heure.
Un po' di brandy
et donc pour terminer, on rajoute un tout petit peu de brandy. C'était la tradition familiale de la grand-mère qui voulait ça. On peut utiliser peut-être aussi du cognac à la place. On rajoute donc à la fin de la chapelure de pain pour absorber le surplus de liquide qu'il peut y avoir dans le mélange des pommes. Et on fait ça tout à la main.
Il nostro ripieno per lo strudel è pronto.
La pâte, elle aura reposé et il faut maintenant l'étaler avec un rouleau à pâtisserie de façon qu'elle soit vraiment très très fine.
Ça
fait une épaisseur d'environ 1-2 mm. La pâte, elle est presque transparente tellement elle est fine et on essaye de garder une forme rectangulaire 70 cm sur 30 cm.
Prendiamo le nostre mele.
On prend donc les pommes assaisonnées et on les place au centre de ce rectangle de pâte de façon vraiment à former un monticule.
A questo punto non ci resta che prendere la nostra pasta.
On rabat donc les côtés de la pâte à droite et à gauche de façon à bien emmailloter la farce.
Cerchiamo di ottenere una grossa salsiccia.
On obtient de cette façon un gros saucisson de pâte avec les pommes à l'intérieur.
Il strudel è pronto per essere
va donc cuire maintenant au four pendant une heure
à 160
degrés.
Il nostro strudel non è poi così bello da vedere.
Il strudel, quand il sort du four, n'est pas très joli, mais en fait c'est parce qu'il est tellement délicieux qu'il va être une explosion de saveur et de goût une fois qu'on l'aura mis à la bouche.
Merci, grazie mille.
Grazie a voi, spero vi piaccia.
Il n'est pas très beau, mais alors qu'est-ce qu'il est bon.
Délicieux.
Le strudel de Giulia, et d'ailleurs il est en délicieux. Plateau, et là je suis en train de le manger. Non, il est dingue.
Avec cette note de cannelle.
La spécificité italienne du strudel par rapport à nos amis autrichiens.
Surtout, la spécialité locale, c'est que ce strudel, il est fait avec une celle qu'on appelle pasta matta. On dit littéralement pasta, pâte folle. C'est un peu un mélange entre une pâte feuilletée, une pâte sablée, très facile à faire, très simple, avec du beurre. Et donc, il est farci uniquement avec différentes variétés de pommes. Et de la cannelle. Il n'y a pas les noix, le raisin, les pignons qu'on peut trouver un peu plus dans le nord et même en Autriche.
Il est vraiment superbe, les Dolomites, pays de pommes, il y en a des variétés. Alors on peut utiliser toutes sortes de variétés, y compris en France, la Canada, la Boscop. Il faut varier un peu les textures
Golden,
et les acidités.
Tout, absolument.
Je précise qu'on retrouve cette recette sur franceinter.fr à la page On va déguster, avec d'ailleurs les principales étapes en vidéo, et notamment cette étape un peu délicate qui consiste à emmailloter les pommes avec cette pâte fine au risque de la déchirer légèrement.
C'est ça, il faut pas hésiter que la pâte elle soit vraiment très fine et transparente.
C'est vraiment un spectacle, en tout cas cette recette absolument incroyable. On voudrait maintenant, chers amis, Eric et Dominique, vous faire écouter quelque chose. Nous avons assisté avec Alessandra Piarini dans les Dolomiti à un drôle de concert. Vous allez voir. À vous de me dire de quoi il pourrait s'agir. Énigme sonore. Ce n'est pas un concert de musique contemporaine.
Je crois que c'est Éric Morin qui a faim, non ?
Ça gargouille.
On est dans une grotte.
Alors, on est dans une grotte, on va dire qu'on est sous terre.
On est souterrain, une rivière souterraine.
C'est un rapport avec ce qui se mange ou se boit.
Je peux tricher un peu ?
Mais pourquoi ? Vous êtes pas au courant, Dominique ?
Non, mais il me semble qu'il y a du vin aussi dans cette région-là.
Eh bah oui.
Oui.
Il y a du vin. Où sommes-nous, Alessandra ? Un concert de blop, 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 incroyable. On sent que ça vit, que ça gargouille. On est effectivement dans une cave.
On est dans une cave. C'est la cave de Elisabetta Foradori, une vigneronne à Mezzo Lombardo. Nous sommes devant un spectacle d'amphore. Il y a une centaine d'amphores dans cette cave. Il faut imaginer donc cette amphore en terre cuite, toute alignée à la verticale. Elles font environ un mètre et demi d'hauteur. Elles contiennent environ 300-350 litres de vin chacune. Elles sont chapeautées par un alambic en verre à travers lequel s'échappe donc le gaz carbonique. Et nous étions vraiment en pleine vinification. Donc le vin qui est à l'intérieur, donc tout le liquide est vraiment vivant. Et ça, c'est le bruit de ce concert.
C'est le bruit du gaz qui s'échappe finalement de cette fermentation en amphore. Et là, on est vraiment dans une vinification totalement naturelle pour des vins d'une pureté, d'une élégance, d'une délicatesse, à l'image d'ailleurs d'Elisabetta Foradori, femme particulièrement élégante et cultivée. Et effectivement, ces vins sont prodigieux.
Prodigieux aussi, vin blanc, vin rouge. Et nous avons donc dans les amphores, nous avons la nosiola que nous avons aussi dans les verres. C'est ce cépage blanc donc del Trentino, un cépage assez rare, produit donc par Elisabetta, donc le domaine Foradori, dans une petite quantité, et donc vinifié en amphore pendant 8 ou 9 mois sur les pots. Donc il y a une macération qui dure assez longtemps. Elisabetta a choisi ce matériau pour sa neutralité, donc pour permettre aussi bien aux raisins et aussi au terroir de s'exprimer sans autres entrants.
On peut vraiment parler de vin vivant en l'espèce. Un petit commentaire, vous en pensez quoi? Alors là, on est sur du vin blanc, vous avez ouvert cette cuvée.
La Nosiola, c'est ça.
Oui. Et puis une macération très très légère et une énorme énergie sur ce vin.
Une énorme énergie, un vin vivant autant que vibrant. Et bien justement, au chapitre du vin, il y a notre ami Dominique Hutin qui va également parler italien couramment. On lui laisse la parole.
On va déguster sur France Inter.
Domenico Utini.
Oui, c'est ça, voilà. Bon, écoutez, pour partir à l'assaut de cette nouvelle année, et des altitudes aussi des Dolomites, plutôt que vous guider en premier de cordée, je souhaiterais me présenter à vous en tant que premier de gorgée. En 2020. Alors, vous avez quand même peut-être noté que l'acronyme de premier de gorgée, c'est PDG, la marque des entrepreneurs entreprenants. Donc, je vous invite maintenant à entreprendre sans tarder l'ascension des Dolomites, mais attention, versant viticole. Et on va découvrir un vignoble qui est peut-être pas le plus connu de l'Italie, c'est le Trentin Haute Adige. On l'a dit tout à l'heure, le nord est typé parce qu'il vient un peu lécher la frontière autrichienne. Évidemment, le vignoble en tire naturellement une espèce d'inspiration alémanique. Et on va trouver des cépages Gewürztraminer, Müller, Thurgau, Riesling, ce qui dessine plutôt un vignoble de style germanique typé par les vins blancs. Et moi, je vous propose plutôt de nous attacher à la partie sud de cette région-là, qui s'appelle le Trentin, qui lui est plutôt culturellement rattaché à l'Italie. Et vous avez dans vos verres respectifs, j'ai dispatché un peu du blanc, du rosé, du rouge. Tiens, d'ailleurs, c'est peut-être les vraies couleurs du drapeau italien, en fait. Hein, les trois couleurs, non? Enfin oui, je pense.
Disons que oui.
Disons que oui. Alors effectivement, j'aurais pu vous présenter le travail d'Elisabetta Foradori, mais...
Progressé sur l'accent, Dominique.
Comment? J'ai progressé sur l'accent?
Ben oui, clairement.
Oui, mais j'y travaille beaucoup, François-Régis Gaudry. Ouais, c'est pour
en
ça.
Buvant du vin italien.
Oui, voilà, voilà.
On était à Elisabetta Foradori.
Ah, vous voyez, c'est dur à dire. Hein. Mais alors, comme elle est quand même dans les radars, c'est elle qui a signé le renouveau du Trentin, elle est déjà dans les radars de la presse et des grands amateurs. Donc moi, je vais vous parler d'une valeur un tout petit peu plus alternative. C'est l'Azienda Agricola Redondel. Répétez après moi.
Pas mal, Azienda Agricola Redondel.
Donc c'est une petite exploitation qui est assez typique de ce qu'on trouve dans la région où souvent les exploitations plafonnent à un hectare. Vous voyez, c'est vraiment des entités de mosaïque. On est vraiment et réellement en montagne. Alors, il y a deux déclinaisons dans vos verres. Il y a un rosé que j'adore. Je ne peux pas le dire autrement, plus techniquement, je l'adore. Ça s'appelle Assolto, c'est un 2018. Alors, on pourrait penser que c'est un vin de l'immédiateté, parce que c'est assez parfumé. Et au final, non. C'est beaucoup plus intéressant que ça. Ça n'a rien à voir avec un rosé qui serait malingre, technologique. Et je l'ai goûté avec le speck tout à l'heure. Et là, on a un mariage tout à fait formidable avec les épices.
Ah bah tiens, j'ai du speck à disposition, ça tombe.
Et voilà.
Bien.
Et vous avez souligné l'énergie de ces vins-là. Et bien, ce rosé est dépositaire de cette vivacité. Oh là ça, c'est là. Tout à fait, c'est formidable.
On parlait d'énergie tout à l'heure, Eric Morin, pour ce rosé-là.
Et alors, si vous préférez verser vers son grand frère, qui est un rouge, qui s'appelle Danato, là, lui, il est beaucoup plus patiné, c'est un 2013. Et vous allez voir qu'il a deux visages. Le premier contact est un petit peu plus viril. On a une empreinte un petit peu tannique. Et en finale, toc, on sort par cette espèce de virgule, qui est une virgule de fraîcheur que partagent ces deux vins-là. Et ces deux vins-là sont le fruit d'une vinification, pardon, qui est peu interventionniste. Mais surtout, les deux sont issus d'un seul et même cépage, le Terroir d'Ego. Ça, c'est à votre portée, vous pouvez le dire.
Oui.
Terroir d'Ego.
Hein,
ça va?
Alessandra,
je le dis pour vous.
Voilà,
si vous
cours de prononciation.
Je peux encore progresser là-dessus. Je vais faire. Bon, en tout cas, ce cépage-là, c'est un marqueur, c'est un pan identitaire de ce qu'est le Trentin. Et puis, ça présente un panorama gustatif qui est assez large, comme l'illustre ces deux vins, parce qu'on a une belle acidité et puis une bonne structure tannique qui sont autant de vecteurs pour un bon vieillissement, premièrement, et deuxièmement, pour une belle fraîcheur. Et justement, la fraîcheur, en début d'émission, j'ai formulé une promesse qui serait de voler de pic en cime, de mont en col. Et ben, je vais tenir cette promesse-là avec ces vins de Haute Adige qui sont des vignobles d'altitude et qui s'inscrivent donc dans la grande famille, celle des vins de montagne et de forte pente dont la définition officielle nous est donnée par le Servim, dont le siège est en Italie. Alors justement, le Servim, Alessandra, vous pouvez peut-être nous le traduire.
Servim.
Centro di ricerca, studi e valorizzazione per la viticoltura montana.
Donc à vous, François-Régis.
C'est un acronyme. C'est un acronyme.
C'est ça.
Servim.
Voilà, en gros...
Moi, je vais dire Servim.
Moi aussi.
C'est une entité qui s'emploie à valoriser les vignobles d'altitude ou de pente. Globalement, il faut à minima 30% de pente et une altitude minimum de 500%. De 500 mètres, vous aurez rectifié, évidemment. Mais je parle italien de temps en temps. Alors, En 31, on l'a dit, on est vraiment dedans, puisque on est sur parfois des pentes supérieures à 300%, et on peut monter, on peut culminer jusqu'à 850%, un petit peu à l'image de ce qu'on va trouver dans Porto, à Lavaux, en Suisse, en Savoie aussi. Alors 30%, quand même, vous pouvez faire l'essai chez vous, 30%, c'est exactement la pente des escaliers dans les maisons. Donc je vous laisse imaginer ce que c'est que d'engager un tracteur dans ces conditions-là. Moi, j'ai essayé à la maison de la radio, j'ai abdiqué, je me suis replié sur l'ascenseur, c'est beaucoup plus pratique. Et vous comprendrez surtout que dans ces conditions, il est tentant de qualifier cette forme de viticulture de héroïque, ce qui induit parfois d'avoir recours au travail d'un cheval, d'un treuil, pour finir à la pioche. Et donc évidemment, tout cela a un coût. Et pour vous donner juste un ordre d'idée, quand en pleine un hectare travaillé d'une manière mécanisée peut demander une centaine d'heures de travail, eh bien pour cette même surface, en viticulture de montagne, elle peut réclamer jusqu'à 600, voire 2000 heures de travail. Donc c'est tout à fait phénoménal. Et phénoménal. Vous connaissiez ce mot ?
Non.
Pour conclure, on a évoqué le terroir d'Ego, donc ce cépage qui est un marqueur identitaire. Je voudrais me permettre simplement de réouvrir un monument, un dictionnaire des cépages dont nous avions accompagné ici la Renaissance, qui est le fruit d'une vie, celle de Pierre Gallet, un jeune homme qui avait 99 ans, vif d'esprit, très alerte, qui vient de nous quitter. Et ben, on peut rappeler que les Dolomites fait partie de l'arc alpin et le centre d'empélographie alpine porte aujourd'hui le nom de Pierre Gallet. Donc on va trinquer à sa mémoire et à celles et à ceux qui ont le gosier de montagne, c'est-à-dire en pente.
Le gosier de montagne en pente. Merci beaucoup Dominique. Une question, si on veut se procurer, si on veut boire les Dolomites, alors il y a évidemment votre cave Alessandra Pierini dans le 9e arrondissement, mais sinon il y a des on peut désormais avoir accès à ces
vins un peu particuliers. Absolument, ils sont distribués. On a Marc Tonazzo qui est ici, qui nous a apporté ses vins, vous le connaissez, parce qu'il a tenu un des grands restaurants. Alessandra, vous pouvez peut-être...
Igolose.
Ah oui, voilà grande carte des vins.
Plutôt vénitien. Mm-hmm.
Et vous trouverez toutes les références de ces vins sur notre site France Inter, à la page On va déguster.
Merci beaucoup Dominique. On devait passer un reportage, une super recette de tortelle di patata. Patate d'ailleurs, il y en a plusieurs.
Patate au pluriel, oui.
Absolument, on n'a pas le temps malheureusement. Est-ce que vous pouvez nous résumer en un mot cette espèce de galette qui pourrait être la cousine suisse du rosti... La cousine italienne du rosti suisse.
Oui, absolument. On l'a découverte donc par le chef Mattia Sicker, qui nous a fait ce tortelle di patate avec surtout à la base de la pomme de terre locale à chair blanche, originaire d'Amérique, mais qui se trouve beaucoup dans le Trentino, qui s'appelle la variété Kennebec, qu'on pourrait éventuellement remplacer par de la Delaware. C'est un kilo de pommes de terre qu'il faut râper cru comme ça avec une râpe à gros trous, mélangée à 170 grammes de farine. On fait une sorte de galette, petite boulette, qu'on fait frire dans de l'huile d'arachide.
C'est ça.
Et c'est juste
c'est
exceptionnel.
C'est
un tout petit peu de sel et on le mange pour accompagner la charcuterie locale, un petit peu de fromage.
Et un peu de fromage. Et le reportage est à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Vous l'aurez en son et recette écrite, assurée. Essayez-la, c'est vraiment délicieux à la maison. Alessandra Pierini, on peut vous retrouver dans de nombreux livres sur la cuisine italienne. En particulier Pasta Allegra, un de vos derniers livres pour faire à la maison. La pasta avec joie. C'est un charmant recueil que vous avez signé avec Sonia Esgulian aux éditions de l'Épure, et puis on peut vous retrouver évidemment aussi chez Rapp, votre épicerie qui compile le meilleur de l'Italie à manger et à boire. Je vous signale également notre nouvel épisode de Tout un plat, notre collection de vidéos culinaires sur franceinter.fr. C'est un tuto qui permet de faire une galette des rois, du feuilletage à la garniture, avec la pâtissière Mélanie Dupuis. À la semaine prochaine, Elvira et Antoine Gerbel seront à mes côtés. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.